dans une fratrie, l'un s'en sort et l'autre pas. Qu'est-ce qui explique au fond que divergent les destins de ceux qui grandissent avec la même éducation ? Dans cet épisode d'Être et Savoir, nous allons raconter les parcours de deux frères. Wilfried Atonga, tué par balle en mars 2016, et Yvon Atonga, qui lui a fait des études, travaille et est entrepreneur, qui écrit aussi. Il est avec nous dans le studio avec Isabelle Coutan, qui est sociologue. Ensemble, ils ont publié Petit frère au seuil. Il est aussi question dans ce livre des autres membres de la fratrie, des parents, des enfants, des amis, du quartier, de l'école, bien entendu. Et c'est un livre qui raconte ce que fut grandir dans une cité de la région parisienne au cours des années 80-90 pour des enfants de l'immigration africaine. Rien des réflexions que suscite cet ouvrage n'enlève l'émotion que procure sa lecture. Parce que ce qui fait une enfance et une adolescence y est décrit avec les détails qui font mouche, les musiques qu'on écoute, les fringues qu'on a envie d'avoir, les noms précis des lieux. Et aussi parce que l'attachement fraternel et tout l'amour qui circule dans la famille Atonga nous la rend extraordinairement proche. Bonsoir Yvon Atonga.
Bonsoir Louise.
Vous êtes co-auteur, donc je viens le dire, du livre Petit frère, dont le sous-titre est Comprendre les destinées familiales. Je disais que vous étiez aujourd'hui un salarié, vous travaillez à la SNCF, vous êtes chef d'équipe, vous êtes responsable de l'association Ghetto Star No Limit et vous êtes aussi un peu entrepreneur. Peut-être qu'on aura même le temps d'en parler, parce que l'entreprise, ça forme aussi, et qu'on parle d'éducation dans cette émission. Première question, le fait que ce soit un livre que vous ayez publié, que ce soit un objet, il y avait eu des podcasts, un travail sonore. Aujourd'hui, il y a un livre imprimé, publié. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Mais en fait, pour moi, c'était important que ce soit un livre, parce que pour moi, un livre, c'est intemporel. C'est quelque chose qui restera, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et nous, dans notre jeunesse, comme je le dis dans le livre, mon père, il nous disait souvent « allez lire ». Donc, c'est aussi un clin d'œil à mon père par rapport aux conseils qu'il nous a donnés et comment il nous a éduqués et à quel point il nous a expliqué que l'école, c'était important.
Ce livre est publié au Seuil, une maison d'édition très reconnue. Je ne vais pas du tout raconter l'histoire du Seuil. En revanche, est-ce que vous pensez que ce livre pourrait toucher un public qui ne connaît pas très bien la jeunesse ? Enfin, vous êtes plus tout jeune, on a un peu le même âge, ouais. Mais le destin des enfants des banlieues. On parle d'une banlieue qui n'est pas très proche de la capitale, même si les banlieues ont des choses en commun. Et raconter Villiers-le-Bel à des gens qui ne connaissent pas, en fait, ce milieu social et ce milieu géographique.
Oui, bien sûr, mais pour les personnes qui ne sont pas de ce milieu-là, ça leur permettra de découvrir, en fait, qu'est-ce que c'est que la banlieue vue de l'intérieur. Et comment on vit en banlieue, comment on grandit en banlieue, et aussi toutes les valeurs que l'on développe, nous, en grandissant dans la rue. Donc ça leur permettra ça d'un côté, et de l'autre côté, ça permettra aux jeunes de banlieue de comprendre qu'il y a des destins possibles, et que le plafond de verre, on peut le casser, et qu'on peut se donner les moyens pour essayer de s'en sortir, même si on grandit en banlieue. Parce qu'on a dans les banlieues, on a quasiment tous les mêmes façons de vivre. On se retrouve lorsque l'on discute et qu'on vient de banlieue.
On se reconnaît.
Voilà. Donc ça permettra. L'idée, c'est qu'à travers ce livre, les jeunes qui grandissent en banlieue comprennent qu'il y a des possibilités, même quand on grandit en banlieue, que c'est pas une fatalité.
L'éducation est hyper centrale dans ce livre qui peut intéresser, je pense, beaucoup d'enseignants. Du reste, Isabelle Coutan, je ne sais pas si c'est votre objectif. Et finalement, quel est votre objectif ? Je pense que c'est d'abord de faire ce livre qui est très particulier dans sa construction. Enfin, je ne sais pas s'il est si particulier que ça. Avec Yvon Atonga, c'est un livre que vous faites ensemble. C'est pas une sociologue qui parle de quelqu'un. Vous avez écrit tous les deux.
Oui, c'est nouveau pour moi. J'avais fait mon travail de thèse dans les années 2000, justement, sur les quartiers du nord de l'Île-de-France, entre autres Villiers-le-Bel. Je m'étais intéressée au parcours de sortie de délinquance. Et c'est comme ça que j'avais rencontré Wilfried, le petit frère d'Yvon. Mmh. Donc ça, c'était au début des années 2000. Et j'avais fait tout un travail pour essayer de mettre en évidence les facteurs qui font que des jeunes qui sont très insérés dans les logiques de rue adhèrent au travail socio-éducatif. Qu'est-ce qui fait que les éducateurs parviennent à leur donner envie d'autre chose ? Donc j'avais fait des entretiens à la fois avec des professionnels, des magistrats, des éducateurs, des enseignants éventuellement, et puis des familles et des jeunes. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Wilfried, mais j'avais une frustration, donc ça avait donné lieu à un premier ouvrage qui s'appelait « Délit de jeunesse », pour faire allusion aussi à l'action du délit de faciès. Mmh. Mais j'avais une frustration qui était que les jeunes dont je parlais étaient des jeunes qui n'allaient pas me lire. Et que ceux pour qui j'écrivais étaient finalement ceux qui n'avaient pas accès à ce savoir de la sociologie. Et c'est ce qui m'a amené plusieurs années après, avec un ami, Mehdi Aoudi, qui fait de la radio, à faire un travail de documentaire autour de Wilfried, que j'ai retrouvé plusieurs années après, qui s'occupait d'un club de boxe à Villiers-le-Bel, qui avait du coup, quand je l'avais rencontré, il avait 20 ans, et quand je l'ai retrouvé, il avait plus de 30 ans. Et on a fait un travail pour essayer de faire une forme de portrait sonore, et c'était en 2015-2016, et puis Wilfried a été assassiné en 2016. Je ne l'ai pas su tout de suite, je l'ai su par le club de boxe. Et puis, on a quand même décidé de ne pas l'enterrer une deuxième fois, c'est-à-dire d'aller au bout de ce projet documentaire. Et ça a pris une autre tournure, c'est devenu une investigation pour comprendre pourquoi il avait été assassiné. Mais aussi, du coup, ça a été une rencontre avec sa famille, avec ses frères en particulier, et aussi une des sœurs. Qui du coup ont été intégrés à ce travail documentaire, et ça a été les débuts de la relation, un peu aussi de réflexion avec Yvon déjà. Alors je l'avais rencontré parce qu'il nous présentait son association Ghetto Star No Limites, justement avec cette idée que les anciens des quartiers devaient revenir, ceux qui avaient réussi, ceux qui étaient partis des quartiers, devaient revenir dans les quartiers pour s'occuper des petits frères d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui lui tient très fort à cœur. Donc on s'était rencontrés comme ça. Et puis, on avait fait un premier entretien parce que moi, cette question de qu'est-ce qui permet d'expliquer les différences de parcours dans les familles, c'est une question qui m'intéresse. Alors, sans doute pour des raisons aussi personnelles.
J'ai
une famille nombreuse, très nombreuse. Il y a des parcours différents. Et quand on est sociologue, évidemment, je remets pas en cause la question des déterminismes sociaux. Hein. En fonction d'où on vient, on n'a pas les mêmes chances, pas les mêmes possibilités. Mais c'est pas non plus un déterminisme complètement mécanique. C'est des dispositions, des prédispositions, des probabilités, et à l'intérieur il y a des différences. Et jusqu'où la sociologie peut en rendre compte, c'est une question qui m'a toujours intéressée. Et c'est finalement là-dessus qu'avec Yvon, on a fini par se rencontrer. Donc peut-être si tu veux compléter, ou vous si vous voulez.
Et ce qui aboutit à une forme de récit, on raconte avec plein de détails, parce qu'une vie, c'est une somme de détails qui font bifurquer ou pas les parcours qui marquent les individus. Isabelle Coutant, je rappelle que j'indique que vous êtes non seulement sociologue, mais directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Institut. De l'IRIS, d'accord. Institut de relations, c'était mal écrit, pardon. Non, international.
Non, c'est pas celui-là.
Et voilà, c'est bien, c'est pour ça que j'ai ripé, ouais. Parce que c'était pas cette iris là. Vous pouvez me détailler
cette acronyme de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux.
Voilà, et pardonnez-moi. Alors, ce qui marque aussi, alors je ne sais pas si c'est, vous allez me dire tous les deux, si c'est un biais de lecture que j'ai, si c'est un biais d'écriture que vous avez, ou si tout le monde s'intéresse autant à l'éducation, parce qu'il en est question tout au fil de ce livre. La question scolaire revient, mais aussi, vous l'avez dit, Yvon, l'importance des livres, mais aussi l'importance des stratégies scolaires. C'est une question à laquelle on s'intéresse beaucoup dans Être et Savoir, parce que ça explique aussi beaucoup de choses du fonctionnement de l'école en France et des comportements des individus, cartes scolaires, etc. Ouais. Ça, c'est très présent à la fois dans des chapitres déterminés, mais aussi au fil de la lecture.
Oui, parce qu'en fait, le sujet de l'éducation, c'est quelque chose qui fait partie de la construction du jeune en banlieue, hein, et puis de l'être humain, on va dire ça comme ça, puisque on arrive à l'école à l'âge de 3 ans, et puis on en sortira peut-être après le bac ou aller un peu plus loin. Donc forcément c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie, et puis l'éducation, c'est quelque chose dont notre père nous a souvent parlé, énormément parlé, et moi, comme j'explique dans le livre, c'est l'école qui m'a permis, moi, de prendre du recul sur sur la vie en quartier et de comprendre quelles étaient les possibilités que j'avais en passant par l'école et quelles étaient les opportunités qui s'ouvraient à moi en passant par l'école et surtout pour mes enfants, pour pas qu'ils vivent la même chose que moi j'avais pu vivre en étant jeune.
Donc c'est tout un projet éducatif, celui de votre père pour ouais. ses enfants, le vôtre
ouais.
pour vos enfants, on les entend aussi, ouais. Les enfants, hein, les vôtres et ceux de Wilfried dans des chapitres du livre plutôt vers la fin. On connaît leur parcours scolaire et moi je trouve ça toujours très intéressant de savoir exactement les options que prennent les unes ou les autres quand il s'agit de faire des choix, par exemple au lycée. Isabelle Coutant, cette prédominance du projet éducatif, elle est très importante en fait pour les familles de l'immigration. C'est peut-être quelque chose qu'on dit peu ou qu'on n'entend pas beaucoup, mais il y a un projet scolaire même.
Oui, souvent, dans un certain nombre de parcours migratoires, c'est aussi un projet d'ascension sociale, c'est un projet de mobilité, c'est un projet d'avenir meilleur pour les enfants. Et j'avais fait un travail avec un autre collègue, Jean-Sébastien Liman, en maison des adolescents en Île-de-France, qui traitait justement des questions de souffrance adolescente. Et un des psychologues de la structure m'avait dit, mais en fait, ces jeunes-là de milieux très démunis, ils souffrent de tout autant que dans les milieux bourgeois de pression scolaire. Parce que ça peut, à l'adolescence, se traduire aussi par des formes de souffrance psychique, mais parce qu'en fait, les pères en particulier, mais parfois les mères aussi, dans ton cas, c'est ta mère qui a voulu que tu aies le bac.
Vous allez plus loin.
En fait, ont des attentes très fortes qui parfois sont un peu démesurées ou pas, mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'on. Voilà, le projet migratoire est un projet d'ascension, bien souvent. Et dans le cas de ton père, ce qui est assez fascinant, c'est que déjà, lui, tu le racontes dans le livre, à l'âge de 16 ans, il était dans un village, enfin, c'est l'histoire telle qu'on te l'a rapportée.
Oui, c'est ça.
Et il décide qu'il veut aller à l'école, en
c'est
fait.
C'est ça, exactement.
Et donc, il quitte le village. Ouais. Son père était chef du village et lui, il décide qu'il veut un autre destin.
C'est ça.
Et donc, déjà, là, ça commence parce qu'il veut apprendre à lire et à écrire.
C'est ça, exactement. C'est quelque chose qui l'a suivi toute sa vie. Et c'est quelque chose qu'il a toujours voulu, apprendre à lire, apprendre à écrire, être dans l'éducation, l'émancipation sociale. Et c'est ce qu'il a voulu pour nous. Et comme je l'explique dans le livre, lui, en étant jeune, c'est ce qu'il voulait. Donc il a quitté son village, son père avait un autre projet pour lui. Et lui, non, ce qu'il voulait, c'est partir à l'école et apprendre à lire, à écrire et devenir une autre personne que ce qui lui était prédestiné, en fait.
C'est très fort hein, de parler d'émancipation par l'éducation dans une famille qui est par ailleurs très traditionnelle, dans le sens où c'est quand même une famille polygame. Il y a beaucoup d'enfants. Je vais revenir sur ce point. La fratrie, c'est très important quand on vient dans d'une famille où on n'a pas forcément tous les codes scolaires. Vous dites, j'avais de la chance parce que j'étais le dernier.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que c'est une chose qui est souvent rapportée par la sociologie dans les familles immigrées. Mmh. C'est assez important d'avoir du capital scolaire transmis par ceux qui sont déjà passés par les collèges et parfois le lycée qui partagent le savoir qu'ils ont pu acquérir.
Oui, c'est ça. Moi, mon père savait lire et avait appris à lire et écrire, mais comme il travaillait beaucoup, il était pas souvent à la maison. Ma mère ne savait pas lire ni écrire, donc j'avais mes grands frères et mes grandes sœurs qui eux avaient été à l'école, donc qui pouvaient m'aider de temps en temps sur mes devoirs. Donc c'est pour ça que j'explique que pour moi, c'était une chance d'être le dernier de ma fratrie parce que je prenais toute l'expérience de mes grands frères et de mes grandes sœurs. Les erreurs qu'ils avaient pu faire, les choix qu'ils avaient pu faire, et aussi leur retour d'expérience qui me permettait de moi de faire des meilleurs choix et construire ma vie différemment en m'appuyant sur ces expériences-là. C'est là où je me rends compte qu'en fait, ça a dû être un peu plus difficile pour mon plus grand frère parce que lui, il arrivait, en fait, c'est lui qui était un peu l'éclaireur de la famille en arrivant à Villiers-le-Bel dans les années 80, on va dire début 80, quand il rentre à l'école à Villiers-le-Bel.
77,
oui, on arrive, mais après, on arrive dans les années 80 et moi, je rentre à l'école, c'est dans les années 80. Et donc, je m'appuie sur ça, je m'appuie sur toutes ces expériences, j'observe beaucoup, j'essaye de comprendre, j'analyse déjà en étant très jeune. Après, c'était un peu compliqué parce que, bon, on était beaucoup dans la maison. Donc, il fallait on était systématiquement dehors. Et quand j'ai compris que l'école, c'était quelque chose d'important, je faisais mes devoirs dans les escaliers du hall.
Et d'ailleurs, c'est une conseillère d'orientation. On dit pas souvent dans les récits à la première personne du bien des conseillères d'orientation. Nous, on n'en pense pas du mal hein, dans cette émission, mais qui vous dit Voilà, vous pouvez aller en général, au lycée général, vous pouvez tenter ça, vous allez redoubler votre troisième, mais ça peut marcher pour vous, vous avez des capacités pour le faire.
Oui, c'est ça. Moi, on m'a toujours dit depuis la primaire que j'avais des capacités, qu'il fallait que je m'accroche, que je me donne les moyens. Mais la problématique que j'avais, c'est que j'avais pas la méthode. Je savais pas comment il fallait faire. C'était ça vraiment la complication que j'avais rencontrée. Mais après, j'avais quand même des facilités. Je me rendais bien compte qu'à l'école, je comprenais pas mal de choses et que j'arrivais quand même à m'en sortir avec des notes correctes, un peu plus que la moyenne. Et en arrivant en troisième, j'avais soit la possibilité de redoubler, ou soit que je sois orienté en lycée professionnel. Et c'est là où la conseillère en fait m'a expliqué que j'avais des possibilités et que si je redoublais, c'était sûr que l'année d'après, j'avais la possibilité de partir en lycée en général. Ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'ouvrir d'autres perspectives, rencontrer d'autres milieux sociaux, etc. Et puis construire ma personnalité et construire mon destin à travers l'école.
Et vous dites, il n'y a personne de mon quartier dans le lycée c'est général. C'est un grand changement, un grand saut, un peu dans l'inconnu, avec des gens qui ne vous connaissent pas très bien non plus. C'est pas du tout le même parcours que Wilfried. Alors, à part les prédispositions un peu des enfants, une appétence peut-être plus grande pour l'un que pour l'autre, qu'est-ce qui peut expliquer ces parcours? Est-ce qu'il y a une dimension de chance? Est-ce que vous parlez d'autocensure à un moment à l'égard de Wilfried, Isabelle Coutant. Qu'est-ce qui change? Ces dispositions psychologiques aussi?
En fait, c'est là où je me suis interrogée un peu sur la question aussi de la place des enfants dans la famille et ce qui se joue pour eux. Les aînés décrivent les deux petits qui étaient Wilfried et Yvon, donc ils avaient un an et demi d'écart tous les deux, alors issus de deux mamans différentes mais élevés un peu comme des jumeaux. Et en fait, Yvon est décrit comme un enfant plutôt calme et Wilfried comme un enfant plus vif et plus agité. Et donc, c'est évident qu'au moment de l'entrée à l'école, un enfant plus agité, il est moins concentré, il écoute moins, il est dans d'autres enjeux qu'un enfant plus calme. Donc, il y a quelque chose là qui s'est joué là. Alors, qu'est-ce qui détermine les caractères? Ça, c'est complexe. Mais en tout cas, moi, l'hypothèse que j'ai quand même faite, c'est que Wilfried, il avait une place particulière parce qu'il est l'aîné, le premier fils de la deuxième fratrie. Le premier fils de la deuxième maman. Et c'est, il fait un peu le lien entre les deux fratries dans sa position. Et en même temps, il est traversé par la tension qu'il y a entre les deux mamans. Puisque, de fait, même si toi, dans ton récit, et c'est quelque chose dont toi, en tant qu'enfant, tu n'as pas souffert. Mais ce que racontent les aînés, c'est que ça n'a pas été simple. Puisque la deuxième maman arrive dans cette famille déjà constituée, quelques mois après, déjà avec une petite fille qui est née quand le père était déjà parti. Et voilà, on peut faire l'hypothèse que ce n'était pas si simple. Et Wilfried, il est dans une place particulière, quand même, dans cette famille, à faire le lien avec des forces un peu qui traversent, qui tirent dans des sens pas forcément... Voilà, c'était peut-être pas facile à tenir. C'est une... Bon, là, on va peut-être presque du côté de la psychologie, mais on peut supposer...
Mais c'est des questions qu'on se pose en lisant. Et ce qui est surprenant aussi, c'est de voir que les enfants de la nouvelle génération sont très surpris de cette polygamie qui leur semble très, très lointaine. Alors que bon, ce sont tout de même leurs grands-parents, mais que quelque part, il y a tout le travail de vivre en France qui a été fait, et que ce sont plus du tout des représentations qui font partie de leur décor proche. Ça leur paraît vraiment très loin à ces filles, à ces nièces. Ce qui est assez particulier aussi dans le fait de venir d'une famille très nombreuse, c'est qu'on dort dans la même chambre, qu'on partage un quotidien de manière beaucoup plus proche. En fait, il y a une forme de promiscuité qui est aussi une forme de proximité. Est-ce que c'est différent pour vous, et par exemple de l'expérience que vivent les enfants de votre famille aujourd'hui?
Oui, c'est complètement différent. Après, nous, le fait de vivre comme ça, de vivre à beaucoup dans une maison, ça crée des liens, ça crée de la solidarité, il y a du partage, il y a des valeurs fortes entre nous. On est éduqué avec un père qui nous explique quotidiennement que il y a pas de différence entre nous, même si on a deux mamans, etc. Donc il y a un lien très très fort aujourd'hui, même jusqu'encore aujourd'hui entre nous. Après, Voilà, moi je pense que ça c'est quelque chose que nous on a vécu et qu'on on est très heureux d'avoir vécu ça parce que ça nous permettait d'avoir vraiment ce lien fort entre nous. Aujourd'hui, mes enfants vivent dans des conditions complètement différentes. Voilà, moi c'était un objectif pour moi, même si je m'étais senti bien dans cet environnement, de faire en sorte que, et que j'ai pu m'en sortir, de faire en sorte que mes enfants puissent vivre dans un autre environnement, avec une maison, avec une chambre, chacun, avec, et d'ailleurs, ils sont jamais dans leur chambre, ça, je comprends pas. Nous, on n'avait pas de chambre, mais on n'était pas dans une chambre, mais les enfants, ils ont leur chambre, mais ils sont jamais dans leur chambre. Mais voilà, après, c'est différent. Parce qu'ils n'ont pas forcément ces liens forts de solidarité. C'est ce que je constate. Ils n'ont pas forcément ce lien fort de solidarité. Ce sont des frères et sœurs, chacun avec leur bien à eux, alors que nous, tout était partagé. Le jean de mon grand frère, c'était par héritage mon jean à moi, les baskets pareil, ma grande sœur m'achetait me ramenait au restaurant, etc. Donc c'est
les grands s'occupent beaucoup plus des petits, évidemment. Ouais, voilà, bah, comme dans toutes les familles nombreuses, ce sont d'autres relations éducatives. Il y a finalement plus d'éducateurs, de personnes qui se mêlent, on l'a dit, les grands frères, les grandes sœurs, de l'éducation de ces enfants, Isabelle Coutan.
Oui, c'est pour ça que c'était important pour moi de rencontrer les aînés, parce que c'était des témoins de la petite enfance des deux frères. Et effectivement, il y a un partage des tâches, une grande division du travail pour s'occuper des enfants. Parce que les mamans partaient tôt, travaillaient comme femmes de ménage, loin, parce que c'était très mal desservi par les transports. Donc c'est les grandes sœurs qui s'occupent de préparer le petit déjeuner, de mettre sur le chemin de l'école. C'est les grands frères qui veillent à l'heure de rentrer à la maison.
Le soir,
donc il y a tout, voilà, il y a une gestion collective des enfants, on pourrait dire.
Parce que Villiers-le-Bel, c'est au nord de Paris, c'est vraiment beaucoup plus loin que si on parle d'une banlieue comme Montreuil ou Nanterre, qui sont aux portes de la capitale. Ouais. Ça n'a rien à voir comme situation géographique, ça n'implique évidemment pas les mêmes déplacements. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la situation de l'école aujourd'hui, Yvon Atonga, je ne sais pas si vous scolarisez vos enfants. Mmh. Nous, en tout cas, on s'intéresse à la situation de l'école en banlieue, et en ce moment même, il y a des appels pour les collèges, les lycées de Seine-Saint-Denis. Je vais vous faire écouter un petit extrait d'une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux.
D'accord. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac.
Je suis élève à Blaise-Cendrars. Bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas.
On est à Blaise-Cendrars. Évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir.
Je suis élève à Blaise-Cendrars dans le 93. Évidemment que j'ai des chaises toutes cassées.
Je suis une élève à Blaise-Cendrars dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours.
Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises ?
Je suis enseignant à Blaise-Cendrars dans le 93. Évidemment que si je suis absent de longue durée, je ne serai probablement pas remplacé.
Je suis élève à Blaise-Cendrars dans le 93. Évidemment que notre foyer a été ouvert une semaine en 2020 et qu'il est fermé depuis 4 ans.
On est à Blaise-Cendrars, évidemment qu'on n'a pas de serviettes, pas de savon et ni de papier.
On est à Blaise-Cendrars, évidemment qu'on a un seau pour les fuites parce qu'on n'a plus de plafond.
Je suis professeur au lycée Blaise-Cendrars. Bien évidemment que je ramène mon ventilateur personnel pour ventiler mes 35 élèves dans la même salle.
Une vidéo sur un modèle qui circule beaucoup sur TikTok. Évidemment que quand on est journaliste éducation, on a envie de poser une question sur les conditions de scolarisation dans les banlieues populaires. Yvon Atonga, est-ce que vous êtes vous intéressez à la politique? C'est dans le livre. Est-ce que vous vous intéressez aux conditions d'éducation, aux conditions scolaires, aux conditions matérielles de la scolarisation de vos enfants?
Oui, bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, bon, mes enfants, ils sont dans des écoles où ils ont pas ce souci-là, mais lorsque l'on était encore à Villiers-le-Bel et qu'on habitait encore à Villiers-le-Bel, effectivement, on rencontrait déjà ces problèmes, ces professeurs qui sont pas remplacés, ces conditions qui sont dégradées dans les écoles. C'est vraiment dommage que la banlieue soit un peu mise de côté et peut-être un peu délaissée de cette manière-là, alors que il faudrait justement mettre le boucher double pour aider ces jeunes qui sont à l'école, parce que c'est les conditions qui permettent derrière de créer peut-être des avenirs, et que les jeunes, s'ils sont dans des bonnes conditions, derrière, ça leur permet d'étudier beaucoup mieux et pouvoir se concentrer sur l'école.
Toi, tu te souviens encore du nom de tes instituteurs et
Ah oui.
De certains enseignants.
Oui, oui, oui.
Mais pas vous, Isabelle Coutant ?
Si, si, moi, oui. Moi aussi.
Les enseignants qui ont marqué.
Oui. On parle de quelques stratégies scolaires. J'y reviens avec un de vos frères, Armand, qui dit, voilà, la réussite qu'on nous a promise, on n'y arrivera pas tous. Mais moi, pour mes aînés, c'est lui qui parle, il choisit allemand en première langue au collège et vise un bac plus 5 minimum. J'ai trouvé assez amusant cette histoire de l'allemand, qui est une très belle langue, qui est c'est très bien de pratiquer l'allemand, et de la manière dont on essaye de se placer dans les meilleures conditions, pour revenir à cette expression qui vient d'être utilisée, Isabelle Coutant.
Oui, alors Armand, lui, c'est le numéro...
Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a un arbre généalogique.
Oui, on est obligé.
Alors,
c'est le deuxième frère aîné. Mais il y a aussi.
Il y a une sœur avant. Voilà. Il y a Jean, Pulchéry, Armand, Marcelin et enfin Yvon.
C'est ça.
Et donc, Armand, il est arrivé en France. Lui, il avait déjà. Je crois qu'en arrivant, lui, il avait 7 ans.
Oui,
il a été, en tout cas, dans son récit, il était un bon élève, en fait, au Congo, à Brazzaville. Et on lui prédisait un avenir de professeur. Et il s'est retrouvé en difficulté à l'école, ici. Et donc, il y a quelque chose de très douloureux dans sa relation à l'école, avec ce sentiment d'un déclassement, en fait, assez précoce. Et puis après, des relations assez conflictuelles avec ses enseignants au collège. Après, il est orienté en lycée professionnel. Il se spécialise quand même. Il trouve goût à. Il est scolarisé dans un lycée privé que votre papa avait repéré, dans lequel plusieurs sont passés parce que les enfants des ministres allaient là.
Ouais, c'est ça.
Donc il faisait tout comme les enfants des ministres. Et donc il passe un CAP dans la cuisine. Il essaie de se faire embaucher, mais il pense que pour le coup là, il est victime de discrimination dans les grands restaurants parisiens. Et puis après, il fait sa route. Il a eu plein de vies, Armand. Mais en tout cas, dans le rapport à l'école, il y a quelque chose de douloureux. Et après, effectivement, il s'est beaucoup occupé de ses 5 enfants, et avec un investissement scolaire très important. Il fallait qu'il fasse je ne sais plus combien d'heures par jour, les devoirs, même pendant les vacances.
Ça vous fait rire, Yvon.
Voilà. Et effectivement, le contrat, pour lui, c'est bac plus 5 minimum pour chacun des enfants. Et puis, sur les conseils d'un instituteur, effectivement, et puis il repère aussi la carte scolaire. Et puis il comprend que les classes allemand et puis l'option latin, c'est pas mal. Et effectivement, donc il a toutes ces stratégies scolaires très élaborées dès pour ses aînés, quoi.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, la classe d'allemand, nous, on a toujours su quand on était en banlieue que ceux qui étaient en allemand, c'était les meilleurs élèves. Donc c'est pour ça que automatiquement, mon frère, il a pensé à mettre ses enfants en classe d'allemand. Ma grande sœur Alice aussi l'a fait, aussi. Et donc voilà, c'est un peu des stratégies scolaires, parce que nous, on l'a vécu d'une certaine manière, et on voyait ces classes d'allemand où il y avait vraiment l'élite du collège. Donc envoyer ses enfants en direction de cette classe, au moins c'est s'assurer d'avoir une classe sérieuse avec des élèves qui vont pouvoir aider peut-être nos enfants, ou nos enfants aider les élèves, mais surtout viser toujours l'élite à travers ce type de classe. Donc c'est un peu ces stratégies-là, et aussi avec le latin. Voilà, ou comme réfléchir à ce que nos enfants apprennent le mandarin. Moi, c'est ce que ma fille fait aujourd'hui. Voilà, c'est tout ça, c'est des stratégies. Pourquoi ? Parce que le chinois derrière, c'est une langue qui permet de faire du commerce. C'est une langue qui sera importante parce que la Chine est en train de se développer économiquement parlant. Voilà, c'est des stratégies que nous on a aujourd'hui, qu'on met en place pour nos enfants. Mon frère César, son fils a fait HEC, école de commerce. Voilà. Et tout ça, ça part de mon père.
France Culture. Être et savoir. Louise Touré.
On s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage, mais on se comprend pas. On avance dans la même direction, mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas.
Je roule sur la marge. vis entre parenthèses. L'encre coule sur la page, je repars en 16. Je marche, puis seul dans la foule. J'ai mon héritage sur l'épiderme. Ma tour 10 étages, j'écrivais ses viternes. Avancer sans la virgule, avec nos accents aigus. Ou la montée au circule, ma voix sans le vécu. L'écran allume les passions, sous tension. Comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations? Des points d'interrogation, est-ce qu'on peut blâmer la misère? Partout la crise a besoin de bouc émissaire. Un retour à Babel, t'en passes trop vite, j'écris. Conflit de civilisation, à qui profite le crime? La raison manque à l'appel, on sait même plus qui a tort. La religion fait diversion pendant qu'on chute à l'appel. J'saute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame et corriger les fautes de français.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas.
Être et savoir ce soir sur le livre Petit frère, comprendre les destinées familiales avec ces deux auteurs, Isabelle Coutant, sociologue, et Yvon Attonga, dont le livre raconte l'histoire. C'est l'histoire de votre frère aussi, Wilfried Attonga, qui a été tué en mars 2016, tué dans une rixe, tué d'un coup de feu. C'est aussi l'histoire de toute votre famille. Alors, on a beaucoup parlé de l'école, de l'importance du parcours scolaire. J'aimerais qu'on parle aussi d'autres facteurs d'une éducation. Il y a le sport dont il est question dans ce livre. Un sport en particulier, c'est la boxe. Mais le sport en général, c'est très structuré. Il y a une grande présence du sport dans les quartiers, Wilfried Attonga.
Oui, oui, exactement. Dans les quartiers, le sport, c'est quelque chose de très important. On le voit à travers le football, on le voit à travers des figures de réussite dans le basketball maintenant. Mais à un certain moment, c'était la boxe thaï. Et la boxe thaï, c'était quelque chose de très, très important à Villers-le-Bel. On a des grands champions qui sont sortis de là, Dida Diafat, c'est des gens que nous, on regardait, qui étaient des grands de notre quartier, qu'on voyait à Canal+, le samedi soir dans des matchs de boxe. Donc, c'était quelque part des figures de réussite pour nous. Mon grand frère Jean, qui a été champion d'Europe, qui a été vice-champion du monde. Voilà, donc c'est des références. Et ensuite, Wilfried, qui a repris le club de boxe où Jean s'était formé. Et mon grand frère Jean travaillait avec Wilfried dans ce club de boxe. L'idée, c'était de voir comment ils avaient la possibilité, à travers ce club de boxe, de faire sortir des jeunes du quartier, de donner une certaine éducation, une certaine rigueur, une certaine discipline à travers la boxe thaï, et peut-être, pourquoi pas, les aider à s'en sortir à travers le sport.
Idée d'ascension et d'éducation à travers le sport, la boxe thaï en l'occurrence, mais ça peut fonctionner avec d'autres disciplines. Isabelle Coutant, ça, c'est quelque chose, alors qu'il est aussi très masculin. Mais y a quand même des filles qui... D'ailleurs, on a des championnes olympiques de boxe en France. Donc, c'est très structurant, ces associations et tout le tissu associatif de la banlieue. Ce sont des petits clubs qui ont un peu remplacé, mais pas totalement, des structures qui étaient plus présentes dans les années 60-70. Structures municipales, on connaît un peu l'histoire des banlieues rouges et de l'éducation populaire.
Oui, puis il y a eu la maison de quartier qui a eu un rôle important à Villiers-le-Bel, mais plus sur la génération précédente. Mmh. Et quand Yvon et Wilfried arrivent à l'adolescence, il y a moins ces interventions socio-éducatives un peu classiques. Mais effectivement, le club de boxe, il vient remplir un rôle éducatif, en fait. C'est le sport plutôt que la rue. Et à travers le sport, c'est tout un ensemble de valeurs qu'on transmet. Et aujourd'hui, effectivement, il y a le foot aussi, avec des gens qui s'impliquent à Villiers-le-Bel, qui organisent des tournois. Ça permet aussi de faire des rencontres interquartiers pour éviter justement les affrontements. et voilà, les transformer différemment.
Et puis des tournois pendant l'été, les vacances, c'est très important.
Parce que vous, pendant les vacances, vous ne partiez pas du tout. C'est-à-dire que c'est 2 mois sans sortir du quartier.
Ouais, c'était 2 mois au quartier, on restait au quartier, on regardait les autres partir en colonie, mais bon, nous, on n'avait pas la possibilité de partir par manque de moyens. Donc, ce qui nous restait, c'était être au quartier, aller au sport, jouer au football entre nous, pratiquer pas mal de sport et essayer d'avoir un peu des activités comme ça pendant l'été pour faire passer le temps en attendant la rentrée.
Et toutes les petites vacances.
Oui, les petites vacances aussi, effectivement. Et aujourd'hui, il y a des grands tournois qui sont organisés, notamment à Villebelle, et on parle souvent de la CAN des banlieues. Il y en a une notamment qui est organisée à Villebelle.
La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, où c'est toutes les communautés de la ville qui créent chacune une équipe à l'effigie de leur pays et qui font un grand tournoi où il y a énormément de monde qui est super apprécié et qui permet de véhiculer des valeurs positives.
C'est très intéressant de voir comment on a glissé, et c'est pas le seul livre qui le raconte. Vous citez La France des Belloumis de Stéphane Beau, Isabelle Coutant, un livre dont on a parlé ici il y a quelques années, parce que il est pas tout neuf, ce livre qui parlait justement de cette déprise de ce qui s'appelait pas encore la politique de la ville, mais qui était en fait beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, donc dans les années 90, pour un glissement vers le soi. Pas grand-chose, soit des acteurs qui prennent en main un peu l'animation du quartier, qui ont beaucoup moins de subsides publics. C'est aussi ça, l'histoire de la banlieue et de l'éducation en banlieue.
En tout cas, dans le récit qui est fait, il y a vraiment les années, et ça ressemble vraiment à ce qui est montré dans le livre de Stéphane Beau de ce point de vue-là. Il y a une rupture entre les années 80 et les années 90, en termes de présence institutionnelle, en fait. Et donc c'est perçu, en plus c'est vécu comme un sentiment d'abandon. C'est comme ça que vous l'exprimez. Vous êtes senti abandonné par l'État.
Bien sûr, nous on s'est senti abandonné. Pourquoi ? Parce qu'on voyait nos grands frères et nos grandes sœurs qui eux, les sœurs un peu moins, mais surtout les grands frères qui eux avaient des activités, avaient pas mal de choses. Enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient mises en place pour eux. Quand ils souhaitaient mettre en place un projet, c'était suivi, ça se concrétisait. Et nous, on aspirait à la même chose. Mais malheureusement, les politiques de la ville ont changé quand nous, on est arrivé à l'âge de pouvoir en profiter. Et donc, il fallait trouver des alternatives.
Et c'est précisément le moment où on commence à beaucoup plus parler de la politique de la ville qui prend ce nom, que cette déprise a lieu, ce qui est quand même au niveau du langage tout à fait impressionnant, pour ne pas dire éloquent. Alors je me suis intéressée à d'autres initiatives plus culturelles. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Yvo Attanga et Isabelle Coutant. C'est un salon de littérature jeunesse des banlieusards qui se tient le 13 avril 2024 à Vigneux-sur-Seine, et c'est une de ses organisatrices, en fait elles sont deux, Aouicha Traoré, qui nous parle des enjeux d'animer culturellement les quartiers populaires et puis aussi des enjeux de représentation.
Moi j'habite à Vigneux-sur-Seine, ma collègue Fatoumata Mbinté est du 93, on s'est très vite rendu compte que oui, ce qui manque c'est justement ces événements-là culturels, littéraires, qu'on les amène en banlieue, parce que déjà c'est plus simple pour les habitants de se rendre à des événements comme ça, proches de chez eux. Mais évidemment qu'il est ouvert à tout le monde. Il y a bien des banlieusards qui vont justement sur Paris assister à des événements culturels et littéraires. Donc le contraire est aussi valable. Aujourd'hui, il n'y a pas de, entre guillemets, d'anciennes maisons d'édition ou je ne sais pas trop quel mot mettre dessus qui se sont intéressées à cet événement. Nous, ce qui nous importe, c'est que ce soit des personnes qui sont engagées dans cette représentation-là, dans cette diversité-là. Donc, on a d'ailleurs beaucoup d'auteurs et d'autrices auto-éditées, plus que de maisons d'édition. Parce que justement, ils n'ont pas d'espace pour pouvoir rencontrer leur public et proposer leurs ouvrages.
À vos yeux, ce qui manque, c'est pas seulement la représentation des personnes, mais c'est aussi une diversité chez les auteurs et autrices de littérature jeunesse publiée.
Complètement. Si vous voulez, il y a une double mission. Il y a une mission qui est évidente, qui est justement d'apporter cette littérature au niveau de la banlieue et de la rendre plus accessible. Mais effectivement, et clairement, et c'est la raison pour laquelle moi je me suis lancée dans l'édition, il y a un manque aussi de diversité dans les acteurs même. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit la règle, mais c'est important des fois que ça soit les personnes concernées qui écrivent, parce que justement, cette représentation, elle doit être réelle, et elle doit être vraiment issue de la diversité, quoi. On ne peut pas faire mieux, en fait, qu'une personne concernée qui écrit et qui illustre elle-même cette diversité-là. C'est pour ça que c'est important, en fait, que dans ces livres, il y ait de la représentation, mais que les acteurs porteurs de ces projets soient aussi issus de ces milieux-là, en fait. Donc, c'est aussi important pour nous de pouvoir justement les rendre plus visibles et montrer que leur contenu est tout aussi qualitatif et mérite d'être connu. La littérature, elle est universelle. Elle s'adresse à tout le monde. Et justement, parce qu'elle est universelle, elle doit être le reflet de la société dans laquelle nos enfants vivent. Et justement, en banlieue, on lit tout. On lit de tout. Dans l'autre sens, il est tout aussi important que tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas en banlieue, aient accès à une littérature où tout le monde est représenté. Qu'on ait des livres où il y a éventuellement des enfants d'origine maghrébine, des enfants noirs, des parents issus de l'immigration qui soient à des postes où on n'a pas l'habitude de les voir, vous voyez ? Parce que c'est important, je pense, que les enfants, d'une manière générale, puissent voir ces représentations-là, parce qu'on sait l'importance des représentations pour les enfants. Et ça, c'est important pour les imaginaires et des enfants qui vivent en banlieue et des enfants qui ne vivent pas en banlieue, en fait. Ces livres-là, ces contenus-là sont importants pour tout le monde.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Et le salon de littérature jeunesse des banlieusards a lieu donc à Vigneux-sur-Seine le 13 avril 2024. Vigneux-sur-Seine, c'est dans l'Essonne. Une petite réaction à ce qu'a dit Aoucha Traoré, Yvon Attonga.
Oui, je pense que c'est totalement vrai ce qu'elle dit. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que, en fait, l'idée, c'est de comprendre que l'effet miroir en banlieue, c'est très important. Que nous-mêmes, à travers, par exemple, le livre Petit Frère, on est en capacité d'expliquer ce que vit un jeune de banlieue parce que nous, on l'a vécu. Lorsque ce sont des personnes extérieures qui nous parlent de nous, ben, ça nous parle pas forcément. C'est pour ça que les choses n'avancent pas. C'est là où, en fait, le livre, il était, c'était important de faire ce livre et que je suis très content d'avoir pu le réaliser avec Isabelle. Parce que on a dans ce livre à la fois le point de vue d'un grand du quartier qui a grandi à Villiers-le-Bel et qui analyse en fait sa vie et qui donne des idées, des perspectives aux plus jeunes. Et on a Isabelle qui intervient en tant que sociologue avec beaucoup d'empathie. Et je pense que son travail il était pas simple parce qu'il fallait faire l'équilibre entre tout le monde. Et qui donne aussi son analyse sociologique. Donc, on arrive à faire le grand écart entre la banlieue et le monde de la socio. Et je pense que c'est pour ça que c'est une réussite et qu'il faut le lire.
Oui, je le pense aussi. Vous le dites très bien, Yvon Attonga. Il y a dans les annexes des tableaux statistiques, des données sociologiques, des chiffres extrêmement précis qui sont donnés au lecteur. Mais c'est vrai que le récit en lui-même, avec tous ces détails, a une grande force aussi parce que des représentations précises, et je l'ai dit dans l'introduction, avec aussi les références culturelles, on parlait de littérature jeunesse, en fait c'est important de donner des titres de chansons, des noms d'artistes, des noms de films dans les années 90. En fait, quand on pensait aux représentations de personnages noirs à l'écran, on pensait au cinéma américain.
Oui, c'est ça exactement, mais c'est ce qui nous a construit, hein, nous... Nous, on mimait les attitudes des mecs de quartier aux États-Unis parce que on avait cet effet miroir et on se retrouvait à travers eux. Et ces cassettes-là nous ont nourris, nous ont permis de nous construire et de comprendre comment ça fonctionnait dans une banlieue aux États-Unis et comment ça devait fonctionner dans une banlieue en France.
Vous avez imité.
On a imité, oui, bien sûr, au niveau de l'attitude, au niveau de la manière de parler, au niveau des tenues vestimentaires. Voilà, on s'est beaucoup inspiré des États-Unis, comme pour le rap aussi s'est beaucoup inspiré des États-Unis. Donc oui, c'est quelque chose qui était...
Donc avoir apporté un jean baggy, des Timberland.
Voilà, exactement, ouais.
Je dis, on est de la même génération.
On a les mêmes références.
Alors, ces références, ce sont aussi des références assez masculines, avec des codes peut-être un peu violents. Alors, c'est pas parce qu'on regarde des films violents qu'on devient violent, mais il y a une forme de violence, et c'est bien toute la question. C'est cette violence des quartiers qui a tué Wilfried Atonga. Donc, c'est important qu'on en parle aussi, parce que c'est tout ce versant sombre de l'éducation, de la rue, dans les quartiers populaires, qui a raconté aussi dans ce livre et qui fait très très peur aux parents, il faut le dire, aux parents issus d'immigration africaine, comme à tous les parents, mais aux parents de Wilfried et de Yvon, Isabelle Coutant.
Bah effectivement, il y a cette socialisation dans la rue, quoi, qui est, tu en parles comme un professeur. Il n'y avait pas de professeur, mais c'est comme s'il y avait un professeur avec des codes, des règles, des normes, et voilà, et qu'on comprend qu'il faut, il faut parler comme ça, se comporter de telle ou telle manière, et c'est très fort. Et en même temps, c'est une culture qui repose, qui est une culture de l'honneur sur des valeurs de virilité très fortes. Faut pas perdre la face, faut défendre son honneur, il faut défendre son quartier. Et effectivement, il y a une surenchère en fait, puisqu'il faut pas se laisser faire. Donc voilà, il faut être plus violent que l'autre pour se faire respecter. Et c'est aussi là-dedans que vous avez grandi. Et c'est un temps. Et puis il y a ceux qui arrivent à passer à autre chose. Puis il y a ceux qui restent pris dans ce mode de relation. Et en même temps, ça donne aussi des raisons d'être. Ça donne un sentiment d'appartenance. Ça donne une identité. Paradoxalement, une image de soi positive aussi. Je pense que pour le coup, Wilfried, il existait, il brillait dans la cité. Donc c'est difficile d'y renoncer à cette existence sociale-là.
Qui apporte une grande reconnaissance. Alors par rapport à tout ça et à tout ce théâtre qui est la banlieue populaire avec tous ces personnages et ces codes. Alors, qui ne sont pas que des codes de la violence, hein, bien évidemment, et la délinquance ne concerne pas tous les banlieusards. Wilfried Atonga, vous dites quelque chose, et Isabelle Coutant, vous dites autre chose. Alors, je vais essayer d'expliquer ça aux auditeurs. Wilfried, vous dites que vous pensez beaucoup au quartier, vraiment encore aujourd'hui, même si vous n'y êtes plus beaucoup, parce que vous lui devez quelque chose. Le problème en banlieue, là je vous lis, hein, c'est que quand les gens réussissent, ils partent, ça devient une réussite individuelle, alors que c'est la banlieue qui a permis ça. Parce qu'on vient de Villiers-le-Bel, parce qu'on est noir, on n'a pas fait forcément des grandes études, mais la banlieue nous a permis de nous construire du point de vue du caractère,
c'est
vraiment
ça.
Une éducation,
ouais,
c'est un troisième parent.
C'est ça, exactement, c'est un troisième parent. Ça nous apporte toutes les valeurs, toute la base que nous on a, et surtout le mental. Le mental, il est très important parce qu'on vit dans la difficulté et on n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions. Et donc être créatif, et ça passe par le psychique, par le mental. C'est ce qui nous crée, c'est ce qui nous permet d'exister. Parce que il faut, comme je l'explique dans le livre, il faut, on a de l'ego, on a un amour propre démesuré parce qu'on n'a rien du tout, on n'a rien d'autre que ça. Donc notre quartier, notre ville, notre rue, notre hall, c'est chez nous, c'est notre maison. Donc je pense que c'est important lorsque l'on réussit ou qu'on arrive à s'extirper de la culture de rue, de la banlieue, c'est important de revenir pour pouvoir partager son expérience aux plus jeunes, pour que les plus jeunes puissent s'en approprier et surtout gagner du temps et ne pas faire les mêmes erreurs que nous on aurait pu faire en étant dans le quartier. Moi, j'ai pu, comme je l'explique dans le livre, par rapport à différents événements, m'en sortir, parce qu'il y a différentes personnes qui sont intervenues dans ma vie à des moments clés, mon voyage au Congo... À l'âge de 15 ans, le jour où je fais mes devoirs et que ma mère elle ouvre la porte et que c'est mes amis qui viennent me chercher et que je suis en train de faire mes devoirs et qu'elle dit Yvon il est pas là et qu'ils partent et finalement ils font un braquage et ils se retrouvent à faire 8 ans, 10 ans de prison. Voilà, il y a plein de choses comme ça, moi, dans ma vie qui m'ont permis d'avoir, d'éviter... Les soucis ou les problèmes que l'on peut rencontrer en banlieue. Malheureusement, mon frère n'a pas pu peut-être avoir cette chance, parce que moi je considère que c'est une chance, véritablement. Donc c'est pour ça que je me dis que lorsqu'on en arrive à sortir de la banlieue, qu'on arrive à s'extirper de là, c'est important de revenir et de communiquer avec les plus jeunes. Moi aussi, j'ai eu la chance, comme je l'explique, d'être le plus petit de ma fratrie, donc de regarder mes grands frères et de m'approprier leur expérience et de pas faire les mêmes erreurs. Donc tout ça cumulé, et puis j'ai un esprit de très observateur, très analytique. Donc, ce qui m'a permis, moi, d'esquiver un peu. Et Wilfried, lui, il est resté au quartier. Il travaillait au quartier. Il vivait au quartier. Donc, il n'a pas pu sortir du quartier et rencontrer d'autres personnes, rencontrer d'autres milieux qui peut-être lui auraient permis d'ouvrir les yeux et de se donner d'autres perspectives. Et malheureusement, c'est quand il en sort, et que nous, on est tous soulagés entre frères et sœurs. On se le dit pas au départ, mais lorsqu'on comprend qu'il achète son pavillon dans une banlieue qui est un peu plus loin, on se dit enfin, Wilfried l'a pu s'en sortir. Donc, on a quelque part, on a réussi à gagner ce combat contre la rue. Et malheureusement, ben, c'est là où les choses le rattrapent et s'enchaînent et que Wilfried décède. Donc, pour moi, c'est important de revenir. C'est dans ce sens-là que je dis que je dois quelque chose à la banlieue, je dois quelque chose à Villiers-le-Bel, parce que c'est Villiers-le-Bel qui m'a construit, c'est la rue qui m'a construit. C'est ce qui m'a permis, moi, de m'en sortir. Et aujourd'hui, à travers ce livre, de pouvoir faire des conférences, de pouvoir parler avec les jeunes, de pouvoir échanger avec des professeurs de classe et de pouvoir partager mon expérience et expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce que je suis considéré comme un grand frère qui est passé par les mêmes endroits qu'eux et qui a pu s'en sortir. Eh ben, si on arrive à travers ce livre à en sortir un ou deux ou trois ou quatre, eh ben moi j'aurais fait mon travail de grand frère du quartier et Isabelle aura fait son travail de sociologue. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on devient indispensable à travers ce livre.
Vous allez dans des établissements scolaires ?
Oui, c'est ce qui est prévu. Il y a pas mal d'interventions qui sont prévues dans les établissements scolaires. Il y a notamment une intervention que je ferai sûrement avec Isabelle le 21 mars avec une professeure de français dans un collège de Villiers-le-Bel, Saint-Exupéry, qui a pris contact avec moi, qui a entendu parler du livre, qui fait étudier le livre à ses élèves. C'est une professeure de français. Et pour moi, je trouve que ben voilà, c'est une victoire, parce qu'on va pouvoir discuter avec les jeunes en direct et ils vont pouvoir étudier ce livre-là et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur.
Et peut-être que des professeurs nous écoutent et vont avoir l'idée de vous inviter à leur tour. Yvon Atonga et Isabelle Coutant. Donc je parlais du quartier, de ses codes, de comment ça nous éduque, mais comment aussi on a envie de transmettre. Hein, ça, c'est vous qui l'avez dit, Yvon Atonga. C'est très viril. Toute cette culture, il y a quelque chose de très fier. Il y a beaucoup de filles qui s'expriment dans le livre. Mais vous dites dans la postface, Isabelle Coutant, que vous voyez quand même une transformation des masculinités au sein des classes populaires, qui passe aussi par ce désir de parler de soi, de se confier, d'aller dans l'émotion, parce qu'évidemment, on parle de faits extrêmement dramatiques, de se raconter et de s'analyser.
Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, troublée, cette expérience d'enquête avec ces hommes qui, par certains aspects, incarnent une virilité très forte aussi dans la manière de se tenir, de bouger, dans ce qu'ils racontent de leur adolescence, de la violence de certains combats. Et en même temps, dans la relation d'enquête, ils ont laissé la plupart d'entre eux émerger une vulnérabilité qui, moi, m'a bouleversée. Plusieurs ont pleuré. Plusieurs ont parlé aussi. Alors, je me suis dit qu'il y avait sans doute un effet de genre. Je suis une femme qui les écoute. Je ne sais pas s'ils se seraient autant laissés aller à la fragilité face à un homme. Et puis, il y avait un contexte particulier, puisque c'était un contexte de deuil aussi. Hein, puisque le lien entre eux et moi, c'était Wilfried qui était plus là. Mais ils expriment quelque chose, effectivement, Parce que Yvon, tu dis c'est ce qui fait notre force, mais c'est aussi très dur. C'est-à-dire que il y a un des amis de la famille, Joe, qui d'ailleurs est devenu instituteur après avoir travaillé dans la finance pour donner du sens à sa vie. Il a voulu être instituteur à côté de Villiers-le-Bel. Il a installé un canapé au fond de sa classe parce qu'il sait que les enfants n'ont pas toujours bien dormi et que quand on n'a pas dormi, on peut pas apprendre. Et Joe, il dit à la fin de l'entretien, il dit. À la fois, c'est très ambivalent. À la fois, il a une nostalgie de la force de l'amitié, des moments passés à se vanner, des parties de basket pendant l'été. Et en même temps, il dit, mais il y a quand même quelque chose de traumatisant à avoir vécu là. Et, ou un autre aussi qui me dit, une fois que parce que j'ai refait lire les textes à tout le monde, et un des petits frères qui dit, mais en même temps, c'est dur ma vie, en la voyant écrite.
Ouais, c'est vrai.
C'est drôle, à quel point vous êtes considérée, Isabelle Coutant, alors peut-être Yvon, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Au début, vous dites un peu comme quelqu'un qui ferait partie des services publics, qui représenterait un peu l'autorité de l'État. Et puis, plus on avance dans le livre, plus vous dites non, mais on prend quand même aussi pour une psychologue, quelqu'un à qui on peut tout dire. Et comme il y a un glissement dans votre rôle à mesure que vous approfondissez la relation. Donc, on passe de la méfiance à la plus grande des confiances, ça veut dire qu'on a aboli une forme de distance qui vous sépare au départ. Voilà, ne serait-ce que parce que vous n'êtes pas issu de l'immigration africaine ayant grandi à Villiers-le-Bel. C'est tout à fait particulier cette rencontre au fil du temps.
Oui, alors ça, je pense que c'est ce que vivent depuis des décennies les anthropologues au bout d'un moment sur leur terrain. C'est-à-dire que au départ, on peut être très autre. Plus ou moins, voilà, c'est l'altérité. Et c'est aussi ce qui est fascinant de part et d'autre, je pense. Et puis, au début, on est un étranger, et puis on est très observé. Enfin, ça, tu me l'as dit toi-même, mais ça, pour le coup, c'est mon métier, je le sais. mais évidemment, les gens nous observent et enquêtent sur nous autant qu'on enquête sur eux. Et c'est bien normal. Et on est testé. Et il y a une relation qui se noue dans la durée. Et effectivement, ce qui est le bouleversant, c'est le moment où si on passe de cette grande altérité au sentiment qu'on est les mêmes, en fait, qu'on est. C'est ce moment aussi, pour moi, en tant qu'enquêtrice, où je me rends compte de la grande proximité humaine. C'est toujours un moment bouleversant.
C'est ce qui se passe dans le livre, en fait.
Et pour le lecteur aussi, je pense.
Quand on lit le livre, on peut avoir, puisque je ne suis pas non plus issue de l'immigration africaine, ayant grandi à Villiers-le-Bel, un sentiment de distance. Et puis, on a le sentiment d'être très proche de cette famille, parce à mesure qu'on les connaît mieux. Vous sentiez, ou vous sentez encore, les enseignants qui sont issus de toutes les régions de France. On sait que les enseignants qui sont en banlieue sont parfois là pendant des années en attendant une autre mutation. Très éloignés des réalités que vous viviez ou que vivent les enfants de Villiers-le-Bel encore aujourd'hui.
Alors nous, à notre époque, moi, il y avait différents types de professeurs. Il y avait des professeurs qui étaient là, parce que ils venaient peut-être d'un autre endroit, ils arrivaient à Villiers-le-Bel et puis il fallait passer par la banlieue avant peut-être de repartir dans leur région et qui faisaient leur travail et puis ensuite rentraient chez eux. Après, il y avait des professeurs qui étaient très impliqués. Je parle notamment d'un professeur, Monsieur Bout, que j'avais en CM1. Qui était un professeur en Auvergnat et qui était très impliqué, qui comprenait notre situation et qui était toujours derrière nous, puisqu'on était trois enfants noirs issus de l'immigration africaine à cette époque-là, et il nous poussait, il nous aidait à faire nos devoirs, il essayait de nous expliquer un peu les méthodes, de nous donner quelques billes pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. C'était un professeur qui était très impliqué. Aujourd'hui, je suis toujours reconnaissant envers lui. Donc c'est un peu je pense qu'aujourd'hui ça doit être c'est la même chose. Il doit y avoir des professeurs qui sont très impliqués parce que la banlieue, c'est quelque chose qui peut marquer. Ça peut créer des liens avec les élèves. Et après, il y a peut-être des professeurs qui viennent juste travailler et ensuite. C'est juste professionnel.
Un grand merci à tous les deux. Cette heure est passée si vite. Isabelle Coutant et Yvon Attonga. Je rappelle le titre du livre Petit frère, sous-titre Comprendre les destinées familiales. Il a paru au Seuil.